Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Bon début de semaine, le mag du lundi que je partage aujourd'hui, vous le savez bien, tous les 15 jours, c'est en alternance. Aujourd'hui, c'est Didier Vallet, sommité fleuri de la biodynamie, poète des plantes. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Des hommes, des plantes et de la biodynamie, c'est le nom de ce rendez-vous, de cette rubrique depuis quelques années maintenant, c'est installé les lundis.
Quoi, 200, 300
Peut-être, même un petit peu plus. Des hommes, des plantes et de la biodynamie. Retour sur les familles. Alors, on le sait bien, il y a la famille des composés. Hein.
Ça y est, là, c'est bon.
C'est intégré.
On peut te donner ton diplôme.
Rosacée, Labier, on bénifère pour cette rentrée 2025, nouvelle famille. Alors, il y a des familles, et dans ces familles, il y a des genres, et puis ensuite, il y a des variétés. Voilà, on a poussé le curseur un petit peu il y a 15 jours autour de cette famille. Et ben, on va reprendre le fil de votre intervention après une rapide musique, Didier. La musique et les ombellifères au programme de l'intervention du jour. Started talking, passing Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. Sweet talking to me, he come and tell me everything is alright. He kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Vous venez de nous rejoindre, le mag du lundi, que je partage aujourd'hui avec Didier Vallet, grand spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, sommité fleuri de la biodynamie, comme annoncé, les ombellifères, la suite à la découverte de cette famille avec vous, Didier.
Oui, déjà un petit aparté, depuis hier on est à l'heure, ce qu'on appelle l'heure d'hiver.
Oui.
C'est-à-dire que d'ordinaire on a un décalage en été on a un décalage de 2 heures par rapport au soleil, ce qui arrange beaucoup de monde parce que le soleil il fait nuit plus tard et que souvent les gens ne vivent pas en fonction de la nature mais en fonction d'heures de bureau ou d'heures de disons d'heures de travail, d'heures de société. On pourrait dire. Donc, quand ils rentrent à 5h ou 6h le soir, ben, ils peuvent encore profiter justement de la nature un petit peu, parce qu'il ne fait pas nuit. Et là, eh bien, il va faire nuit 1 heure plus tôt maintenant, c'est-à-dire que...
On se lève, il fait nuit, on rentre, il fait nuit. C'est quand même c'est une période particulière.
On est dans des régions tempérées où le jour est très court en hiver, en fait. On a un jour qui fait même pas, qui doit faire 10 heures. On a 10 heures de luminosité et encore, on a de la chance parce que si on était en Suède ou en Finlande, on aurait que 2 heures de jour, peut-être en plein hiver. Donc, forcément, si on est parti pour 9 heures de chez soi pour avoir une activité de travail, on part, il fait nuit, on revient, il fait nuit. C'est la nuit dure beaucoup en plein hiver, disons, à Noël. Donc ça, c'est irrémédiable, c'est naturel. Alors bien sûr, si vous allez vers les tropiques ou même à l'équateur, là, c'est 12 heures de jour, 12 heures de nuit, quelle que soit la saison. Donc, il n'y a pas de problème avec un décalage horaire. Alors, moi, j'affectionne ce décalage. J'aime l'heure d'hiver. J'aime l'heure d'hiver parce que je suis un lève-tôt et plutôt un couche-tôt. Donc, ça ne me dérange pas qu'il fasse nuit de bonne heure. Mais par contre, le matin, j'aime bien ne pas attendre trop tard, quelque part. Par exemple, avec ces 2 heures de décalage, les plantes, elles sont à l'heure solaire. Les plantes, elles sont à l'heure solaire. Elles ne connaissent pas nos heures intellectuelles, disons, nos heures sociales. La société des plantes, c'est le soleil. Et une plante, elle va fleurir, ça dépend des plantes, mais les plantes, elles ont besoin d'une certaine luminosité pour que leurs fleurs s'ouvrent. Et actuellement, maintenant, ça tire à sa fin, mais avec le mois d'octobre très beau qu'on a eu, on avait beaucoup de fleurs de calendula, de fleurs de soucis, très belles, très grosses. Et avant 2 heures de l'après-midi, à notre heure sur la montre, les fleurs ne sont pas encore ouvertes. Il faut attendre assez tard. Maintenant, on sera à 1 heure, elles seront ouvertes avec ce décalage. Donc, c'est quelque chose que j'aime bien, et puis qu'il fasse jour plus tôt le matin, c'est pas désagréable non plus. Donc voilà, c'était la petite aparté du 27 octobre. Après, je sais plus, mais ça fait très longtemps c'était au moment du choc pétrolier, dans les années 70, que ça a été mis en place. C'était... alors là, c'est une petite aparté...
historique.
Historique et puis politique, entre guillemets, quelque part sociétal. On avait mis ça en place pour le choc pétrolier et donc ça devait être temporaire.
Ça
n'existait qu'en France, ça n'existait pas dans toute l'Europe. Et maintenant, le temporaire est devenu... Alors, pendant des années, au moment des changements horaires, on disait « Ah oui, mais on va arrêter ça et... » Et en fait, c'est le temporaire qui continue. Et alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucun décideur qui n'a le courage d'aller contre quelque chose qui est devenu, usuel pour la population, pour la société, tout le monde est habitué à ça. Les gens maintenant, contrairement...
Enfin, on peut vite s'en déshabituer, hein. C'est que 2 fois dans l'année, on subit ce changement.
Alors, voilà, c'est pas très, très... Voilà, ça fait pas... Politiquement, c'est pas important, je veux dire... Et puis la plupart des gens, bon, moi, c'est vrai que j'ai connu les deux. J'avais seulement 20 ans au moment où c'est arrivé, mais une grande partie de la population n'a connu que la forme heure d'été, heure d'hiver. Donc c'est quelque chose qui est devenu naturel en fait, qui est devenu usuel.
Mais c'est quoi le rapport entre le choc pétrolier et le fait qu'on bouge les heures? Alors, il y a un aspect économique aussi derrière
pas,
tout
oui,
ça.
Oui, je n'ai pas compris exactement, mais c'était pour faire des économies d'électricité.
Ok.
Parce que C'est là que je comprenais pas trop en été, donc du coup, il fait nuit plus tard, on allume les lumières moins tôt.
Plus tard.
Voilà, on allume les lumières plus tard.
Par contre, l'hiver ?
Et les usines, les usines consomment de l'énergie la journée.
On va vérifier.
Alors peut-être le matin, je ne sais pas. Mais c'était vraiment une question d'économie d'énergie pour faire face à cette augmentation du coût du pétrole.
1973.
C'était 1973.
Je crois, oui.
Ouais. Donc voilà. Bon, les plantes, elles sont pas si loin que ça, puisque elles s'en fichent du coût de l'énergie. Elles l'ont gratos. La photosynthèse, elles font au solaire. Et le choc pétrolier s'en fiche complètement, sachant que le pétrole vient des plantes quand même, comme le charbon. Pour en revenir à nos ombellifères, excuse-moi, mais,
non, mais
tu m'as dit que j'avais le temps, donc...
oui, on prend le temps.
L'autre fois, il y a 15 jours, on a parlé, entre autres, de la carotte et surtout de cette tendance des ombellifères à faire descendre les senteurs et les arômes dans le feuillage jusque dans la racine. Alors, elles ont aussi un autre caractère commun, c'est qu'elles font... leurs racines sont fortement implantées en terre. C'est-à-dire que pour arracher une plante, il y a des plantes qui s'arrachent facilement. Pour arracher une plante d'ombellifère, on a quelque chose qui est vraiment très, très ancré en terre. Alors, dans la carotte, ça va être ancré en profondeur. Hein, c'est une racine pivotante qui s'en va, qui peut s'en aller profond. Si votre jardin est un peu dur et vous essayez d'arracher une carotte, quelquefois elle se casse, elle vient pas bien. Surtout qu'elle est... La carotte cultivée est plus tendre quand même, heureusement, que la carotte sauvage, ce qui fait qu'on peut la croquer facilement, mais elle est plus fragile aussi quand même. Donc, cette tendance, on va la retrouver, et cette faculté que l'ombellifère a de descendre toutes ces substances, que la fleur soit insignifiante, en fait, et même que la graine soit insignifiante. La graine, quand vous regardez une graine de carotte, on la regarde pas souvent, la graine de carotte. Alors, petite précision, la plupart une grande partie des ombellifères sont des plantes bisannuelles. C'est-à-dire que la première année, elles vont faire de la racine et du feuillage, et la deuxième année, tout d'un coup, comme le persil, hein, la deuxième année, pof, elle monte, tout d'un coup, elle fait une grande tige qui monte et elle fait la fleur. Mmh. Et là, le persil, c'est foutu,
persil,
on laisse se ressemer pour qu'il repousse tout seul ou pas, mais c'est terminé. Hein, il est en fin de vie, il va sécher, la racine va sécher et ce sera terminé. Et on retrouve ça dans une grande partie des ombellifères. J'en ai pas parlé l'autre fois, j'ai parlé du feuillage qui était aromatique, mais aussi le feuillage, la feuille se divise en multiples folioles. Alors on trouve ça dans l'aneth, on trouve ça, c'est-à-dire qu'une feuille s'est constituée, si vous prenez une feuille d'épinard par exemple, c'est quelque chose qui a une certaine forme, mais qui est plein de matière, avec une nervure centrale, et qui est attachée à une tige, par ce qu'on appelle un pédoncule, c'est-à-dire une petite tige qui rattache à la tige principale. On trouve ça dans les feuilles d'arbres, ainsi de suite. Mais les feuilles peuvent être découpées, c'est-à-dire que la nervure centrale peut, les petites nervures latérales qu'il y a peuvent faire comme des feuilles. C'est-à-dire que la feuille est complètement découpée. Il y a de la matière, de l'air, la matière, de l'air, comme on trouve dans la feuille de frêne, par exemple. Une feuille de chêne, c'est complètement plein. Une feuille de tilleul, c'est complètement plein. La feuille de frêne, elle est constituée d'une nervure principale qui est attachée à la branche ou au branchage et de folioles, comme on trouve ça aussi dans le fraisier. Le fraisier, il a une nervure principale et trois folioles qu'on trouve dans le rosier, qu'on trouve dans une partie des rosacées. Donc, les ombellifères, elles font de... Alors, le céleri ou le persil, là, les folioles, il y en a quelques-unes, mais ce n'est pas complètement découpé. Mais si vous prenez la nette, ou le fenouil, là, c'est...
C'est de la dentelle.
C'est de la dentelle, ouais. Voilà. Mmh. Tu l'as dit, forcément. Mmh. Et il y a certaines ombellifères, il y a jusqu'à 9000 folioles par feuille. Elles sont tellement découpées, ce n'est plus que vraiment de la dentelle très, très fine. Hein. Donc, il y a cette particularité aussi.
C'est du bel ouvrage.
C'est du bel ouvrage, oui. C'est ce que j'appelle l'intelligence naturelle. Et là aussi, on voit, en règle générale, je me répète parce que j'en ai déjà souvent parlé, une plante très terrestre va faire une feuille entière pleine de matière, une plante très en rapport avec la lumière et le cosmos va faire une feuille très découpée. C'est-à-dire que, par exemple, on peut dire que le tilleul ou le chêne est plus terrestre que le frêne, qui a une feuille découpée. Donc, on voit là encore ce combat, disons, c'est pas combat en termes de guerre, hein, mm-hmm. Mais ce combat qu'il y a entre le yin et le yang fait de la matière, le yin fait de la contre-matière, si on veut. Donc on est toujours au milieu entre ces deux, ce qu'on appelle en biodynamie force terrestre et force cosmique. Donc, les forces terrestres sont très en rapport avec l'eau. Une plante qui pousse dans l'eau, elle va avoir une feuille très ronde. Une plante qui pousse à l'ombre des arbres, elle va avoir une feuille très, comme la pulmonaire, très, très entière. Et une plante qui pousse en plein soleil va avoir un feuillage beaucoup plus découpé. Donc là, dans les ombellifères, elles ont tous plus ou moins un feuillage découpé, même si celles qui poussent dans l'eau peuvent avoir un feuillage assez découpé, comme la sanique, qu'on va trouver dans des marécages, qui va quand même pas être comme la feuille de nénuphar, vraiment toute ronde. Voilà. Donc... il y a une autre tendance qu'on va pouvoir dire aussi, un autre caractère commun aux ombellifères et qu'on retrouve dans très peu de plantes. Et ça va m'amener à une plante dont je voudrais parler aujourd'hui. C'est le fait que normalement, une tige d'une feuille, une nervure d'une feuille, c'est plein. Quand on regarde, alors, si on regarde, par exemple, du céleri, et qu'on regarde les feuilles de céleri, alors il y a la nervure centrale de la feuille, et puis il y a les folioles, c'est creux à l'intérieur. La tige de céleri est creuse quand vous la faites en salade, ou si vous mettez du céleri dans la soupe, vous voyez que la tige est creuse, c'est-à-dire qu'il y a de l'air à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très particulier dans le monde végétal, c'est que normalement, le monde végétal laisse l'air à l'extérieur. L'air est à l'extérieur de la feuille, et il n'y a que dans le monde animal que l'air rentre à l'intérieur de l'organisme. Sous forme de la respiration intérieure, alors que dans la plante, la respiration, elle est extérieure. Et là, On a dans une grande partie de ces ombellifères, et on retrouve ça, j'ai pas l'impression qu'on le retrouve dans beaucoup d'autres plantes. Alors, si on retrouve ça dans les bambous.
Ah oui.
À part dans les bambous, j'ai l'impression que les bambous, les cannes, tout ça, où il y a de l'air à l'intérieur.
Le roseau.
Pas tous les roseaux, oui. Mais dans les autres familles de plantes ordinaires, j'ai pas l'impression qu'on ait ça. Donc on a cette particularité des ombellifères. Et c'est comme, elle se rapprocherait un petit peu du monde animal au niveau de cette propriété-là. Hein, ça ne veut pas dire qu'elle est proche du monde animal, mais au niveau de cette propriété. Mais par contre, dans les réflexions qu'on peut avoir sur leur propriété, leurs aides à se soigner, peut-être qu'il y a des choses à approfondir.
La ciboulette.
Ah oui, oui, la ciboulette, elle est creuse à l'intérieur. Oui. Peut-être dans les liliacées, donc cette famille, faudra qu'on en parle un de ces jours.
Ah bah oui.
Des oignons, des poireaux, de l'ail et tout ça. Il y a des poisons, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont toxiques, comme dans les ombellifères. Donc on retrouve ça, oui, aussi. Merci, David.
Si je peux servir quelqu'un petit quelque chose, avec plaisir.
Donc, ça m'amène à vouloir parler d'une plante qui est l'angélique.
L'angélique.
L'angélique. Alors, le nom scientifique, c'est Angélica archangélica.
C'est beau.
Ange, archange. Ah. Alors, pourquoi ce nom? La petite histoire nous dit que c'est une plante qui a été utilisée beaucoup au Moyen-Âge, au moment de la peste, pour protéger. Et que les gens disaient que c'était les anges et les archanges qui avaient envoyé cette information pour protéger. C'est pas une plante spontanée dans nos régions, cette plante-là. Il y a des angéliques qui sont spontanées dans nos régions, mais qui n'ont pas des propriétés aussi puissantes que l'angélica archangélica. Il y a l'angélica du bord de mer, il y a l'angélique des forêts, des bois, il y a différentes angéliques. L'angélica archangélica, elle est originaire des pays du Nord. Sibérie, Islande, je ne sais pas exactement, tous les pays où elle pousse... de manière spontanée. Alors, on peut la retrouver. Alors là, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, plus on monte en altitude, plus le climat ressemble à ce qu'on a quand on monte au nord de la Terre. C'est-à-dire que, par exemple, à 2000 mètres d'altitude, les forêts s'arrêtent, on n'a plus que des petits arbrisseaux et jusqu'à ne plus avoir du tout de végétation à part l'herbe. Et ça correspond à les 2000 mètres, ça correspond à ce qu'on a au-dessus du cercle polaire. C'est-à-dire que quand on monte dans le nord, par exemple, vous prenez la Suède, vous remontez le long de la Baltique, vous avez des grandes forêts de conifères et tout d'un coup, et alors, c'est surprenant parce que vous arrivez, j'ai pu faire ce voyage quand j'étais jeune, vous avez un panneau, alors c'est en anglais, cercle polaire, et à ce moment-là, les forêts, les grands arbres s'arrêtent et on n'a plus que la toundra. On n'a plus qu'à la toundra, et si vous remontez encore plus au nord, il n'y a plus rien, en fait, quelque part. Et ça correspond à ce qu'on a en montant en altitude. Donc, oui.
On reparle de l'Angélique dans 15 jours.
C'est déjà passé.
Oui, Didier. Ah, oui, oui. Ah, mais en plus, c'est tellement frustrant parce que là, on vivait le voyage. On était avec vous sur la toundra. On avait passé les 2000 et on commençait à avoir besoin d'oxygène.
Bon. Alors, eh bien, voilà. On ne retrouvera l'Angélique dans les pays du Nord ou en altitude dans 15 jours.
C'est noté. Merci, Didier. Des hommes des plantes et de la biodynamie tous les 15 jours en ouverture dans le magazine d'actualité de début de semaine. Allez, Zoupela, c'était le mag du jour. La suite du programme dans un instant et à bientôt pour un nouveau mag et nouvelle édition du magazine d'actualité.
CFM Villefranche, le mag.